Comme tu l'as indiqué, Olivier, dans ton introduction, ce message s'inscrit dans la thématique que nous avons retenue pour 2024-2025, qui est celle de consacrer un certain nombre de messages à ce thème sur la louange, l'adoration, les sacrifices. Nous avions déjà eu l'occasion de l'entamer au cours des mois précédents. Et donc là, je vous propose de regarder le premier cantique de la Bible que nous trouvons dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, dans les versets 1 à 21. Et donc, je vous propose la lecture de cette portion de chapitre. Alors, je vous invite peut-être plutôt à regarder l'écran, parce que j'ai fait un petit mixte. C'est un texte qui, d'après les spécialistes, est compliqué, puisqu'il comporte un certain nombre de mots assez antiques, ce qui d'ailleurs est une preuve qu'il ne s'agit pas d'une composition ultérieure, mais bien d'un texte fort ancien qui nous a été conservé. Nous sommes donc après la Pâque, la traversée de la mer Rouge, et de l'autre côté de la mer des roseaux, plutôt, Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Jah est ma force et mon cantique. Il a été mon salut. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier, l'Éternel est son nom. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et de son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux. Les abîmes les ont couverts. Ils sont descendus dans les profondeurs, pareils à une pierre. Ta main droite éternelle est magnifique de force. Ta main droite éternelle a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les dévore comme de la paille. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille et les abîmes se sont durcis au cœur de la mer. L'ennemi disait, « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Mon âme s'en rassasira, je tirerai mon épée, ma main les détruira. » Tu as soufflé de ton souffle, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans les eaux magnifiques. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable en louange, opérant des merveilles? Tu as étendu ta main droite, la terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta force, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'ont appris et ils ont tremblé. La douleur s'est emparée des Philistins. Les chefs des Dômes ont été épouvantés. Un tremblement s'est emparé des puissants de Moab. Tous les habitants de Canaan ont défailli. La terreur et la frayeur sont tombées sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils sont devenus muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu t'es acquis. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ton habitation éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel règnera éternellement et à toujours. » Oui, les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers ont pénétré dans la mer et l'Éternel n'a ramené l'eau sur eux alors que les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins en dansant. Myriam répondait aux Israélites, « Chantez à l'Éternel car il s'est hautement élevé. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Alors, mon propos ce matin n'était pas du tout de rentrer dans une analyse structurelle, littéraire ou théologique détaillée de ce texte qui, au demeurant, est très riche et pourrait tout à fait le mériter. Mon propos était bien davantage de donner quelques aperçus sur le Dieu que nous trouvons dans ce texte magnifique et comment cela peut alimenter notre louange, la louange que nous pouvons faire monter vers notre Dieu à la fois collectivement le dimanche matin, mais aussi à titre personnel. Et j'aimerais aussi faire un pont avec ce qui nous a occupé les trois dimanches précédents. Nous avons eu un cycle de trois dimanches sur les miracles dans l'Évangile selon Luc. Et l'Exode est finalement le miracle fondateur pour le peuple de Dieu. Alors, il y avait eu des miracles dans le livre de la Genèse, et puis nous avons les 10 plaies d'Égypte, qui sont 10 miracles extraordinaires, mais ces miracles, finalement, n'étaient pas destinés au peuple de Dieu. Ils étaient pour les Égyptiens, et même, on pourrait dire, contre les Égyptiens, dans un sens. Tandis que là, nous avons ce miracle fondateur par lequel Dieu fait passer son peuple au travers de la mer des roseaux pour lui permettre de se retrouver au sec de l'autre côté, séparé des Égyptiens, sans plus de terreur pour ceux qui les poursuivaient. Et donc, ce miracle fondateur est l'occasion pour les fils d'Israël et pour Moïse qui les conduit de faire monter ce cantique qui est le premier cantique développé. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, nous avions vu, lors de l'étude du livre de la Genèse, que la première portion importante en poésie était la bénédiction que Jacob avait fait monter, avait plutôt distribué auprès de ses fils en Genèse 49. Mais c'était un discours poétique, mais c'était un discours. Tandis que là, nous avons un premier cantique. Et un cantique accompagné aussi d'instruments de musique, puisque nous voyons Myriam avec son tambourin à la fin. Et donc, la délivrance extraordinaire que Dieu a opérée au cours de l'Exode, eh bien, c'est l'occasion de cette louange. Et sans que nous nous concertions avec Olivier, j'avais retenu aussi ce texte magnifique que nous trouvons dans ce chapitre 15. Et en particulier redoutable en louange, opérant des merveilles, ce terme merveille que la seconde 21 traduit d'ailleurs miracle, décrit plus largement des choses qui sont extraordinaires et que Dieu opère. Et donc, ce sont ces merveilles que Dieu a opérées, et entre autres, cette victoire sur le Pharaon et son armée. Alors, je l'ai appelé le miracle fondateur parce que si vous parcourez la suite de l'Écriture, vous constaterez que ce soit dans la bouche des prophètes ou que ce soit dans la bouche des psalmistes que référence est faite très fréquemment à ce qui a été opéré à la mer Rouge. Et c'est quelque part un exemple type pour les fils d'Israël de cette délivrance que Dieu va accomplir parce qu'il en a accompli une fondatrice pour le peuple qui a été donc séparé, puisque ce passage de la mer Rouge, c'est ce qui permet de séparer le peuple d'Israël des Égyptiens qui, eux, sont repoussés de l'autre côté de la mer des Roseaux. Peut-être avant d'aller plus avant, un propos, c'est vrai que ce cantique que Moïse et les fils d'Israël font monter vers Dieu, c'est à l'occasion d'une délivrance vue de leur côté, mais il y a eu quand même un bon nombre de morts. Et donc, se réjouir, chanter parce que des gens sont morts, ce n'est pas forcément quelque chose très évident, et ça peut nous choquer. J'aimerais néanmoins vous faire remarquer que c'est une réaction qui est sans doute marquée par notre sentiment d'humanité, et qui est une bonne chose, mais qui est aussi celle de gens qui sont confortablement installés, qui n'ont jamais été esclaves, qui n'ont jamais été persécutés, etc. Quels étaient, à votre avis, les sentiments d'un juif libéré de Birkenau ou de Auschwitz quand il a appris la mort d'Hitler et de ceux qui sont tombés dans le bunker de Berlin? Voilà, vous laisse imaginer ce qu'elle pouvait être leur réaction. Donc, ayons bien conscience que la victoire de Dieu ne pourra passer que par la défaite de ses ennemis. Et ses ennemis n'ont pas que Dieu ait voulu que le Pharaon et son armée soient son ennemi. Bien au contraire. Et ce chapitre 15 s'inscrit dans la suite de tout un ensemble de chapitres qui s'étage des chapitres 4 au chapitre 14, où le Pharaon, de façon répétée, en face de signes extraordinaires que Dieu déploie, endurcit son cœur, jusqu'au moment où Dieu endurcit son cœur à la suite. Et puis, à un moment, quand les premiers-nés meurent tous en Égypte, le Pharaon en a marre, et qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, cette fois-ci, partez. Bon, on pourrait se dire, c'est bon, là. Mais non ! Il revient sur son idée et il poursuit les fils d'Israël. Donc, il y a donc une obstination dans la révolte contre Dieu de la part du Pharaon et de son armée, qui, quelque part, explique aussi cette mort qui va être la leur. 10 signes extraordinaires, et en plus, on continue à poursuivre. Et puis, il faut bien voir que derrière le Pharaon se trouvaient aussi les dieux de l'Égypte. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, mais les 9 plaies d'Égypte, et même la 10e, sont en relation directe avec les dieux de l'Égypte. Et c'est comme si Dieu éternel avait montré au Pharaon que tous ces dieux, Anubis, Thor, Osiris, Isis, etc., qu'on apprend en 6e quand on fait son premier cours d'histoire égyptienne, eh bien, tout cela, finalement, c'était des dieux qui n'en étaient pas, et derrière lesquels se trouvaient aussi des démons, parce que l'histoire égyptienne et la mythologie égyptienne est pas mal marquée quand même par de l'occultisme. Et donc, derrière cette bataille entre le peuple et les chars du Pharaon, bataille qui n'a pas été menée, finalement, parce que l'Éternel l'a menée toute seule, c'est ce que le chant nous dira, eh bien, nous avons aussi une bataille spirituelle contre les autorités méchantes spirituelles. Alors, nous n'avons pas beaucoup de détails qui nous soient donnés sur le comment ce miracle s'est opéré. Il est parlé de ce grand vent d'Orient qui a soufflé, nous trouvons cela. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la lecture que Moïse en fait dans ce cantique, c'est que c'est un acte extraordinaire, opéré par Dieu et qui a agi de façon absolument unique. Et c'est un double miracle, c'est-à-dire que d'abord, les fils d'Israël sont passés à sec, et puis au moment où le Pharaon et ses chars voulaient les poursuivre, et ben, alors là, les eaux sont revenues. À la fois les eaux sont parties au bon moment et les eaux sont revenues au bon moment. Donc ce double miracle a été ce miracle fondateur. Second lien que je voudrais faire avec nos dimanches précédents, c'est que l'Exode, c'est aussi une anticipation. Et sur le mont de la Transfiguration, dans un des textes que Louis Maël a parcouru dimanche dernier, eh bien, nous avons cet Exode de Jésus qui est évoqué. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Et le mot grec pour départ, c'est exodos. Et pour être sûr qu'on comprenne bien, ce mot est relativement peu fréquent dans le Nouveau Testament, mais nous le trouvons en Hébreux chapitre 11, quand Joseph fait mention de ces eaux qu'il faudra que les fils d'Israël prennent lors de leur départ, de leur exode d'Égypte. Vous voyez ? Et donc, à l'exode qui s'est passé en moins 1606, si je retiens la chronologie très longue, et puis ce qui s'est passé en l'an 30 à Jérusalem, eh bien, il y a un lien assez direct que Jésus, dans son échange avec Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration, a fait. Et donc, c'était aussi un exode dans un autre sens, mais qui nous permet de comprendre. Et alors, dans la seule planche un peu théologique de mon propos d'aujourd'hui, j'aimerais introduire l'exode plus. Alors, je vous invite pour cela à lire un article que Henri Blocher nous a permis de faire paraître dans Promesse et qui détaillera beaucoup plus que moi cela. C'est qu'en fait, nous trouvons cet exode. Premier exode, c'est la sortie d'Égypte, mais dans le livre du prophète Ésaïe, en particulier dans le chapitre 40 à 66, donc quand Ésaïe anticipe le fait que le peuple va être captif à Babylone et qu'il va sortir de Babylone, eh bien, il reprend beaucoup de terminologie de l'exode, et donc ça, c'est l'exode plus, et en particulier, voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, ça rappelle bien l'exode 1, et qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers, ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever, ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ça, d'accord. Mais ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Oubliez un petit peu votre exode de -1606. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? Ne sortez pas avec précipitation. Le deuxième exode sorti de Babylone sera beaucoup plus paisible que le premier, puisqu'eux, ils pourront attendre que Cyrus les dote richement pour pouvoir reconstruire le temple, etc. Ne partez pas en fugitif, car l'Éternel marche devant vous, et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde. Allusion, bien entendu, à la colonne de nuée et de feu. Et puis, vous remarquerez que souvent, on commence à lire Ésaïe 52, verset 13. Mais ça, c'est Ésaïe 52, verset 12. Et donc, si on enlève notre découpage qu'on a trop souvent en tête, mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera placé très haut. De qui s'agit-il ? Du quatrième chant du serviteur et bien entendu de Jésus dans cette magnifique prophétie de Ésaïe 52, verset 13 à 53, verset 12. Et donc, en fait, voyez combien cela fait le lien avec le troisième exode, l'exode plus, qui est la mort et la résurrection de Jésus et la nôtre avec lui. Puisque, par exemple, dans un texte de 1 Corinthiens 10, Paul dit « Nos ancêtres ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés à travers la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Et donc, l'exode qu'ils ont connu, Paul leur rapproche de ce baptême que ce baptême chrétien, qui est notre assimilation à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et vous voyez combien, ainsi, à travers toute la parole, ce qui était au départ un acte physique se trouve recevoir une signification spirituelle dans le Nouveau Testament. Mais je ne m'arrête là et je vous laisse réfléchir à cet exode plus. Alors, j'aimerais baser mon propos sur le verset 2 de ce superbe cantique. Dans ce verset 2, nous avons cette expression « J'a et ma force et mon cantique et il a été mon salut ». Et donc, ce que nous allons voir dans la suite, c'est Dieu, mon salut, ma force et mon cantique. Ah, pourquoi ai-je singularisé cette expression parmi d'autres de ce cantique de Moïse ? C'est que cette expression, là aussi, nous la trouvons à trois reprises dans l'Ancien Testament et dans des termes qui sont quasiment identiques. Alors, nous la retrouvons dans le très beau cantique qui clôt la première partie du livre d'Ésaïe, le livre de l'Emmanuel, chapitre 1 à 12 du livre du prophète Ésaïe, que tu as mis en musique, Thibaut. « J'a, Jéhovah, et ma force et mon cantique, et il a été mon salut. » Et que nous annonce ce livre de l'Emmanuel ? Eh bien, c'est sans doute le passage biblique qui sera peut-être le plus cité dans ce temps de l'Avent, puisque nous y avons l'annonce d'Emmanuel, voici une vierge concevra et enfantera un fils, au chapitre 7, verset 14. Et puis nous avons au chapitre 9, verset 5 et 6, ou 6 et 7, suivant les versions, l'enfant est né et puis le fils nous a été donné. Et puis il y a beaucoup d'autres allusions au chapitre 11, etc. Et en particulier, je vous invite à regarder au chapitre 11 les allusions à l'Exode, il y en a plein. Bon, voilà. Et donc vous voyez que dans l'Exode, eh bien, on reprend la même expression dans Ésaïe, et Ésaïe, à la fin de ce développement prophétique extraordinaire dans lequel il va annoncer l'arrivée de ce Messie qui est à la fois cet enfant et ce fils, eh bien, il éclate en louange, et qu'est-ce qui fait monter comme louange ? Exactement la même que celle que Moïse, si on prend peut-être 900 ans auparavant, avait fait monter. Et puis, dans le psaume 118, je rappelle que le psaume 118 avec le psaume 110 est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. C'est avec Ésaïe 53 les trois chapitres les plus cités hein, de tout l'Ancien Testament. Eh bien, qu'est-ce que nous retrouvons au milieu de ce psaume 118 ? J'a a été ma force et mon cantique et il a été mon salut. Exactement la même expression. Et que nous dit ce psaume 118 ? Eh bien, il va nous parler juste après ce rappel de ce que nous trouvions déjà en Exode 15 et en Ésaïe 12, eh bien, il va nous parler de la pierre rejetée et du sacrifice lié aux cornes de l'autel. Pierre rejetée que Jésus lui-même va prendre pour lui-même en disant « c'est moi ». Et aussi, nous allons retrouver plusieurs fois dans le Nouveau Testament une allusion à ce psaume 118. Donc vous voyez combien, par cette expression que nous trouvons trois fois dans l'Ancien Testament, nous avons une progression qui nous emmène de plus en plus vers celui qui va permettre aux hommes et aux femmes de la terre entière de pouvoir chanter que j'a, que Dieu est mon salut, ma force et mon cantique. Donc, nous allons regarder successivement ces trois aspects et je commencerai par Dieu, mon salut. Pourquoi je commence par celui-là ? Parce que, même si ce n'est pas l'ordre direct que donne Moïse, c'est qu'il a été mon salut. Donc, nous allons commencer plutôt par l'aspect passé que Moïse présente dans cette expression, Dieu, mon salut. Alors, vous avez ici une illustration de Gustave Doré, dans toute la force de son romantisme de gravure, qui présente donc les fils d'Israël avec Moïse, vous voyez tout là-haut, et puis les vagues qui viennent, et puis les chevaux là, qui sont emportés par les vagues. Donc, de quoi Dieu nous a-t-il délivré ? De quoi Dieu m'a-t-il délivré ? Eh bien, Dieu m'a délivré de l'esclavage en Égypte. Et alors, comme souvent c'est évoqué, et je pense que ça a été évoqué encore ce dimanche matin, c'est que c'est une signification du péché. Nous avons vraiment besoin, je pense, pour comprendre ce dont le Seigneur nous a libérés, nous avons vraiment besoin d'images. Pourquoi ? Parce que, ici, quand je regarde autour de moi, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait été meurtrier. Il n'y a cas d'adultère avéré, après on ne sait pas, mais bon. Voilà, donc si vous voulez, vous êtes des braves gens, n'est-ce pas ? Vous êtes des braves gens. Vous avez toujours une conduite à peu près correcte, d'accord ? Bon, alors. Et donc, quelque part, le péché, oui, Dieu nous a libérés du péché, mais le péché, dans son horreur, eh bien, nous est un peu difficile parfois à percevoir. Et alors, nous avons besoin de ces images comme celles des Israélites en Égypte. Il est parlé de la maison de servitude, du dur labeur, etc. Et c'était marqué par quoi ? C'était marqué par le travail forcé. Ils étaient obligés de bosser. Et puis, par la captivité, ils ne pouvaient pas sortir. « Laisse aller mon peuple ». Ben oui, il fallait l'autorisation, entre guillemets. Et l'autorisation n'était pas du tout donnée. Puis la torture. On voit que quand Moïse vient et puis il va voir le Pharaon, et le Pharaon dit « Si c'est comme ça, je vais encore plus les torturer. Et non seulement je ne vais pas leur donner les briques, mais ils vont devoir les fabriquer eux-mêmes. » Vous voyez ? Et puis sans parler du meurtre, je rappelle que le livre de l'Exode s'ouvre par le pogrom des enfants mâles hébreux. Et donc tout cela, c'est pour nous faire vraiment comprendre à quel point le péché est horrible. Et c'est quelque chose qui nous enserre, qui nous emprisonne. On parle parfois d'addiction, mais quelque part, le péché au sens large, c'est une addiction. Alors qui parfois se montre par des aspects qui peuvent être extérieurement très propres, comme par exemple l'addiction à sa propre importance, qui est sans doute un des esclavages les plus subtils et les moins souvent mis en exergue que l'on connaisse. Ce matin, c'était amusant parce qu'à la radio, il y avait Eric-Emmanuel Schmitt qui disait précisément ça, qu'en fait, on pensait d'abord à soi. Puis, c'est frappant de voir qu'effectivement, quand on est un peu honnête, on se dit finalement, l'esclavage le plus important, c'est cet auto-centrage qui est spontanément le moi. Deuxième délivrance, c'est ils ont été délivrés du Pharaon. Et le Pharaon, me semble-t-il, c'est celui qui avait mis en esclavage. C'est celui qui était le chef de ceux qui étaient en esclavage. Et derrière le Pharaon, me semble-t-il, nous sommes légitimés à voir le diable. Parce que aujourd'hui, ce qui influence ce monde, le chef de ce monde, celui qui pousse les gens à pécher, c'est bien le diable. Alors, il trouve un écho intérieur dans l'homme, bien entendu, mais c'est quand même lui qui est derrière, qui est le menteur, qui veut nous pousser à la faute et qui influence les personnes. Mais là, ce qui est magnifique, c'est que c'est fini. De la même manière qu'ils ne sont plus esclaves, ils sont libres de l'autre côté de la mer des roseaux, et bien là aussi, le pharaon, il n'est plus là. Donc, son influence a pris fin. Nous ne lui appartenons plus, nous n'appartenons plus au diable, nous avons changé de champ. Vous savez, l'image très fréquente qu'on prend des deux champs de l'Amérique colonialiste. Et donc, nous sommes passés, c'est pour ça que les termes sont très forts dans le Nouveau Testament, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et le diable n'a plus de droit sur nous. Et quelque part, et Jésus à la croix a crucifié les autorités et les principautés, il les a produites en public. Et puis nous sommes délivrés aussi de la crainte. Il faut bien voir que si nous avions lu quelques versets auparavant dans le chapitre 14 de l'Exode, avant que Dieu opère ce miracle extraordinaire, ben les Israélites, ils étaient complètement coincés puisqu'ils voyaient le pharaon et ses chars qui arrivaient. Il y avait la mer qui était là. Et du coup, ils avaient une trouille mais monumentale. Et puis, ils disaient, mais à quoi ça sert qu'on ait fait tout ça pour finalement mourir quelques jours après être sortis d'Égypte? Et là, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, Dieu dit ben, qu'il reste tranquille et qu'il voit la délivrance de l'Éternel et qu'il marche. Dans cette ambivalence qui j'ai toujours trouvé extraordinaire avec ce peuple qui est invité à la fois à rester tranquille, mais aussi à marcher. Comme quoi, il y a les deux aspects qui se correspondent. Et donc, ils sont aussi délivrés de cette crainte. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va reprendre, Hébreux 2, versets 14 et 15, en faisant le lien, le diable qui tient asservi les hommes et les femmes par la crainte de la mort, et bien celui-là, et bien, il a été vaincu à la croix. Peut-être ça vaut la peine de lire ce texte si important de l'Épître aux Hébreux. Par sa mort, Jésus a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à l'esclavage. À la servitude, à l'esclavage, on pourrait dire. Et donc, nous sommes délivrés parce que nous n'avons plus peur de la mort. Alors, ça ne veut pas dire que la mort soit quelque chose à envisager de façon totalement neutre, mais cette crainte, quelque part, elle est passée, parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Et donc, Dieu est mon salut. Et cela se marque par le refrain, ce que nous trouvons au verset 1 de notre chant, et que Myriam reprend dans son refrain. Et vous remarquerez qu'il y a les deux aspects. Il y a à la fois « je chanterai » et puis « chanter à l'Éternel ». Donc, à la fois cet aspect de « je », c'est mon salut, Dieu est mon salut, c'est ce salut, il est pour moi. Et puis aussi, j'encourage les autres à chanter sa délivrance. Et donc, dans ce refrain, il est question du cheval et de celui qui le montait, ou de celui qui le conduisait, puisqu'on peut penser que c'était plus des chars, donc c'était plus le conducteur du cheval que celui qui montait dessus, comme s'il montait à croupe. Et donc, il y a à la fois le moyen du péché et celui qui dirige le péché. Eh bien, tous les deux ont disparu dans les profondeurs de la mer. Mais allons un cran plus loin. Allons un cran plus loin, pourquoi? Parce que Dieu a opéré le salut. Mais ce que dit Moïse, c'est que Dieu est mon salut. C'est Dieu lui-même qui est le salut. C'est pas simplement que Dieu a opéré le salut, ce qui est vrai, et c'est ce que je viens de détailler, mais Dieu est le salut. Et alors, ça ne vous fait pas penser à quelque chose, surtout qu'il est question de Jah. Eh bien, Jah, salut, Jésus, ben oui, puisque le nom qui a été donné à celui qui est venu incarnation du Fils de Dieu sur la terre comme homme, eh bien, c'est tu appelleras son nom Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Et donc, quand Moïse loue Dieu sauveur, Jéhovah qui a donné le salut, eh bien, nous nous trouvons quelque part en face de Jésus, l'éternel sauveur. Alors, vous voyez, tout ça, ça nous conduit à louer, à nous réjouir. Parce que, essayons de le faire vraiment souvent. Vous savez, c'est quand même formidable qu'on sache que nos péchés sont pardonnés. Alors, parce que demain c'est lundi, et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous allez pécher lundi. Ben oui, mais vous n'allez pas être condamné pour autant, parce que nos péchés sont pardonnés. Demain, peut-être vous entendrez parler de quelqu'un qui vient de mourir. Ben oui, mais vous savez que la mort est vaincue, et que si même nous avons à y passer, eh bien, la résurrection nous attend. La victoire a été remportée. Et en plus, nous sommes en relation avec celui qui est notre salut. Nous sommes en relation avec Jésus. Chaque jour, nous pouvons nous réjouir comme le vieillard Siméon qui tenait Jésus dans ses bras. Mes yeux ont vu ton salut et regarde ce petit bébé. Et regarde ce petit bébé parce que ce petit bébé est l'incarnation même du salut. Et alors le plan de Dieu dans la Bible, c'est quoi? C'est le plan du salut. Et c'est le plan de Jésus quelque part. Parce que c'est le plan que Dieu développe de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour remporter cette victoire, pour remporter ce salut. Et pour remporter ce salut, pour se glorifier. D'où l'expression que nous trouvons verset 1, il s'est hautement élevé. Il s'est hautement élevé. Et d'autres traductions d'ailleurs, je pense, disent il a accru sa gloire ou quelque chose comme ça. Il a fait éclater sa gloire, nous dit la seconde 21. Littéralement, il s'est hautement élevé. C'est que ce plan du salut, en fait, il est là pour être à la louange de la gloire de Dieu au bout du compte. Et donc, c'est ce salut magnifique que nous sommes appelés à proclamer. Deuxième expression, Dieu ma force. Et alors, dans ce très beau poème, la force de Dieu est souvent symbolisée par la main droite de Dieu, ta droite, ta main droite. Alors, désolé pour les gauchers ici, Dieu n'a rien contre les gauchers, il les aime comme des droitiers, mais dans la Bible, le symbole de la force, c'est la main droite. Voilà, c'est comme ça, c'est symbolique, hein. Donc, la main droite de Dieu, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'elle a été magnifique en force, qu'elle a écrasé l'ennemi, qu'elle est étendue. Alors ça aussi, c'est une expression que nous trouvons très souvent dans la Bible, à main forte et à bras étendu. Voilà. Donc, on voit ce Dieu qui, finalement, va jusque-là pour agir. Et ça nous fait penser à ces expressions du début du livre de l'Exode, quand Dieu dit « Je suis descendu, j'ai vu la misère des fils d'Israël, et là, je vais intervenir. » Et donc, il y a cette intervention de Dieu, et cette intervention de Dieu, elle est puissante en force, elle est personnelle. Mais elle ne se limite pas à l'action passée, puisque ça, nous l'avons déjà vu dans « Dieu a été mon salut ». Mais Dieu est ma force, et alors, dans la suite de ce poème, nous trouvons un certain nombre d'expressions qui, finalement, ne regardent plus vers l'arrière, mais regardent plutôt vers le devant, vers le présent, vers l'avenir, vers tout ce chemin que le peuple va commencer à entreprendre dès que la mer des roseaux aura été franchie, parce qu'ils ne vont pas rester assis au bord de cette mer en attendant de voir que les eaux les corps reviennent sur le bord. Non, non, ils vont avancer. Mais ils vont avancer dans un chemin qu'est-ce qui va être ce chemin? Eh bien, justement, ce chemin va être marqué par la présence de Dieu qui va être la force du peuple. Dans ta bonté, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta force, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu t'es acquis, tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne de ton habitage, à l'endroit que tu as préparé pour ton habitation éternelle, au sanctuaire que tes mains ont établi. Et donc, ce qui est très frappant, c'est que vous voyez, ici, Moïse va utiliser un procédé que beaucoup de prophètes ultérieurs reprendront à leur compte, c'est le passé prophétique. Tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Ah ben non, ils sont juste là, au tout début du chemin. C'est le premier jour, il en reste 40 ans, et encore, pour aller jusque dans le pays promis. Mais il y a une telle certitude dans le fait que Dieu va être présent sur le chemin que Moïse, ici, par l'Esprit de Dieu, parle au passé. Tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Et donc, nous avons cette vision qui est là. Et cette vision, alors je ne vais pas détailler ce point-là, mais vous aurez remarqué que dans la troisième partie de ce cantique, il est question des Philistins, de Moab, d'Édom, de Canaan, etc. Et des gens qui ont eu la trouille parce qu'ils ont vu le peuple. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu la trouille, et Rahab, en Josué 2, dira bien qu'il se rappelait de ce qui s'était passé en Égypte, de la traversée de la mer des roseaux, et qu'ils ont eu peur. Sauf qu'ils ne savaient pas quel était le point d'arrivée du peuple. À l'époque, ce n'était pas marqué. Non, là maintenant, on sera en Canaan. Non, ils ne savaient pas. Donc, c'est après, quand ils ont vu le peuple arriver, ils se sont dit, oh là là, c'est eux qui ont été l'objet d'une telle délivrance au départ. Et puis, il est même question du peuple des Philistins. Alors, nous, les Philistins, on les connaît, mais il semble quand même que les Philistins soient arrivés de Caftor, il y a des débats entre spécialistes, mais peut-être 150 ans après que le peuple est entré dans le pays de Canaan. Auquel cas, ce serait par prolepse que Moïse anticiperait finalement le fait que le peuple allait bénéficier de la part de Dieu d'une protection par rapport aux Philistins. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce que cela nous dit pour nous dans notre vie ? Ben, ça nous dit que Dieu, aujourd'hui, lundi, demain, toute la suite, eh bien, il est et il sera notre force. Même pour des dangers auxquels nous ne pensons pas, avec, c'est pour ça que je trouve que l'allusion aux Philistins est intéressante, même vis-à-vis de situations que nous n'arrivons peut-être même pas à imaginer aujourd'hui. Mais Dieu, aujourd'hui, demain, et jusqu'au bout du chemin, sera notre force. Sa main droite, son bras étendu, sa main puissante sera là pour nous. Troisième et dernier aspect que je voulais évoquer, en reprenant donc cette expression de Moïse, Exode 15, verset 2, « Dieu, mon cantique ». Ce qui frappe quand nous lisons ce cantique, eh bien, c'est ce que tu nous as lu au début de ce culte. Qui est comme toi parmi les dieux éternels ? Qui est comme toi parmi les dieux éternels ? Le peuple d'Israël avait grandi, si on peut dire, dans un contexte très polythéiste dans l'Égypte antique, et même pour les peuples auxquels ils allaient être confrontés, que ce soit en Canaan, Édom, tout cela, eh bien, il y avait beaucoup de dieux. Et donc, là, Moïse a conscience que le Dieu dont il a eu la révélation personnelle et qu'il a fait connaître au peuple d'Israël, eh bien, c'est un Dieu qui est incroyable. Effectivement, il y a les autres dieux, mais il y a ce Dieu qui est absolument unique. Et alors, il va le décliner dans cinq noms. Et nous trouvons ces cinq noms dans le poème qu'il fait monter. Le premier nom que nous trouvons le plus fréquemment, à 9 reprises, c'est le nom de Yahvé, l'Éternel. Alors, c'était le nom personnel, c'était le nom que Moïse connaissait, puisque au buisson ardent, au chapitre 3, eh bien, Dieu lui était apparu et lui avait dit son nom, ce nom indicible que même les Juifs n'ont plus voulu prononcer à partir d'un certain moment, Yod-HVH, ce tétragramme sacré qui nous parle de ce Dieu de l'Alliance. Mais ce Dieu qui a des aspects qui parfois peuvent nous étonner. Vous aurez remarqué ce vers, l'Éternel est un guerrier. L'Éternel est son nom. Ah oui, Dieu est un guerrier, ben oui, effectivement. Il est celui qui remporte des victoires. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les Septante, donc la traduction en grec du Nouveau Testament, a traduit cette expression « l'Éternel est un guerrier » par « l'Éternel est un briseur de guerre ». Intéressant, parce que l'Éternel est à la fois un guerrier, mais c'est lui aussi qui va faire qu'un jour, eh bien, de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, ils forgeront des charrues. Voilà, exactement, qu'il va être brisé toute guerre. Donc, Yahvé, c'est « je suis celui qui scie », c'est celui qui dont l'essence est l'être absolu en tout temps, mais c'est aussi celui qui a visité son peuple. Dans le contexte de l'Exode, l'Éternel, c'est celui qui se met en relation avec justement ces pauvres esclaves qui étaient à la fois torturés, menacés de mort, captifs. C'est celui-là qui... Donc derrière Yahvé, l'Éternel, il y a tout cet aspect-là. Nous trouvons aussi le diminutif de Yahvé, qui est Yah. Expression poétique que nous retrouvons de nombreuses reprises aussi dans le livre des psaumes. Alors il y a, j'oserais dire avec respect, c'est le petit nom de Dieu. C'est le nom de quelqu'un qui a envie de chanter à Dieu, mais il connaît son Dieu. Il y a une notion d'intimité, de dévotion, d'adoration, d'affection derrière il y a. Et je vous invite à regarder. Et d'ailleurs, l'expression dans les psaumes, quand est-ce que c'est utilisé ? D'ailleurs, l'exultation de louange, c'est quoi ? C'est Alléluia, gloire à Dieu, n'est-ce pas ? Et donc, c'est ce terme-là qui est utilisé, ce terme poétique, et que nous trouvons, peut-être pour la première fois, je n'ai pas vérifié, mais il me semble, dans ce chapitre 15 du livre de l'Exode, où il est question de Jah, et ma force est mon cantique, et il a été mon salut. Donc, Jah, c'est cette proximité de Dieu qui est connu, et il est tellement connu, on l'aime tellement que on a envie de l'appeler comme ça, avec, j'ose dire avec tout respect, ce diminutif. Troisième nom de Dieu, c'est Elohim. Alors là, c'est le nom du Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est un pluriel de majesté, puisque Elohim, c'est un nom qui en soi est pluriel, même si au début, hein, c'est Bereshit bara Elohim, premier Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, les dieux, pluriel, créa, singulier. Donc, ça nous montre bien que c'est un pluriel de majesté, qui nous montre donc que finalement, Dieu est au-dessus de tous ces dieux. C'est le Dieu qui est puissant en création et qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu dans l'absolu de son être. Et puis, nous trouvons aussi Dieu. Alors, pour ceux qui utilisent la version Darby, vous avez remarqué que parfois, le nom de Dieu, il y a une petite astérisque exprès, après, pour dire, attention, là ce n'est pas Elohim, c'est elle, tout court. Alors là, c'est quoi? Ça nous fait penser à elle. Alors, nous l'avons chanté plusieurs fois dans notre chant de départ. C'est El Olam, etc. Surtout El Shaddai, El Elyon, les deux noms par lesquels Dieu s'était fait connaître au patriarche. Et vous aurez remarqué que dans ce chant, il est question, au verset, verset 3, « Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Donc, il y a à la fois ce que moi-même, à titre personnel, j'ai compris et j'ai reçu de Dieu, mais il y a aussi ce qu'il m'a été transmis. Et nous sommes heureux, par exemple, de chanter des cantiques qui ont été chantés depuis des générations et des générations, parce qu'ils célèbrent le Dieu de mon père, de mon grand-père, etc. Et je pense que beaucoup ici, nous avons eu le privilège d'avoir des parents et des grands-parents, des arrière-grands-parents qui étaient chrétiens et qui nous ont transmis aussi un petit peu de qu'est-ce qu'était pour eux leur Dieu. Et puis même pour ceux qui n'ont pas eu ce privilège, il y a toute cette lignée de chrétiens depuis des générations et des générations qui ont parlé de Dieu, qui ont loué Dieu, qui ont introduit Dieu comme un cantique et auquel nous pouvons penser. Et puis le dernier nom, c'est Adonai, Seigneur, que nous trouvons aussi une fois dans ce poème, le sanctuaire Seigneur que tes mains ont établi. Et le Seigneur, c'est celui à qui nous devons la révérence, à qui nous appartenons, à qui nous devons obéissance. Et donc, il y a aussi cette note-là qui est présente dans ce magnifique dévoilement de ces noms de Dieu que nous trouvons. Mais pas simplement les noms de Dieu, nous avons aussi les attributs de Dieu. Et j'en relèverai seulement Dieu, deux. Il est question de la sainteté. Là aussi, relisez ce cantique et vous verrez qui est comme toi, magnifique de sainteté. Il est question plusieurs fois de la demeure de ta sainteté, plusieurs fois il est question de cette sainteté. Alors qu'est-ce que c'est ce sainteté? Cette sainteté, c'est plus qu'un attribut, puisque quand Ésaïe a cette vision de Dieu, saint, saint, saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire, Ésaïe chapitre 6. Donc, cette sainteté, c'est le fait que Dieu est différent de nous, différent de sa créature. Il est tout autre, il est le tout autre, il est le saint. Et c'est quelque part, on pourrait dire, l'essence même de sa divinité. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que « qui est comme toi, magnifique de sainteté », là aussi, la Septante, la traduction grecque, l'a interprété en « qui est comme toi, glorifié parmi les saints ». J'aime bien voir cette correspondance. C'est-à-dire que Dieu, dans sa sainteté, quelque part, il est unique, mais il nous fait participer aussi à cette sainteté. Et désormais, il est glorifié dans ses saints. Et 2 Thessaloniciens dira qu'à la venue de Jésus-Christ, eh bien, il sera glorifié dans ses saints et admiré dans ceux qui auront cru. Et donc, quelque part, nous sommes aussi, dans un sens, le reflet de la sainteté de Dieu. Mais un deuxième terme aussi attire notre attention, c'est le terme « bonté ». Les traducteurs hésitent. J'ai retiré, Darby traduit par « bonté », mais la NBS « fidélité », la Bible du Semeur « amour », la NEG « miséricorde ». Ici, j'ai trouvé en anglais « steadfast love »,« covenant love », donc cet amour de relationnel, amour qui dure, etc. Ce terme de bonté qui est si fréquent dans l'Ancien Testament, eh bien que nous trouvons ici. « Dans ta bonté, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. » Et donc, vous voyez combien, et je ne fais qu'ébaucher le sujet, à travers la méditation sur les noms de Dieu, à travers notre méditation sur les attributs de Dieu, eh bien, nous voyons Dieu qui devient notre cantique. Nous chantons Dieu tel qu'il est et tel qu'il a été révélé. Et nous le chantons et nous le chanterons plus tard, puisqu'il est question, à la fin du livre, à la fin de la révélation, il est question du cantique de Moïse une deuxième fois. Je vis aussi, comme une mer de verre mêlée de feu, ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur cette mer, tenant des harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne pourrait ne pas te craindre, Seigneur ? et rendre gloire à ton nom. Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Ce cantique de Moïse, c'est finalement, et je pense que c'est un indiadis, c'est-à-dire qu'on pourrait dire le cantique de Moïse, c'est-à-dire le cantique de l'agneau, eh bien, c'est une seule et même louange qui parcourt la Bible, qui commence avec ce premier cantique et qui se termine par ce cantique de l'agneau, qui exalte ces faits, ces voix extraordinaires de Dieu et qui se sont montrées en particulier par l'œuvre de la croix. Et donc, pour terminer, Dieu, ma prière, c'est qu'il soit mon salut, ma force et mon cantique. Et ce qui est magnifique, c'est que ce cantique ouvre aussi une perspective d'éternité. Je trouvais une image, je l'ai mise un peu floue, parce que qu'est-ce que ce sera, Apocalypse 21, 22, on ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu habitera avec son peuple. Et c'est ce qu'annonçait déjà Moïse, à l'endroit que tu as préparé pour ton habitation au sanctuaire. Et le cantique se termine par « L'Éternel règnera éternellement et à toujours ». Donc nous avons ce fil d'or qui parcourt toute la Bible, ce désir profond de Dieu d'habiter avec l'être humain, d'habiter avec les hommes et les femmes. En Éden, ça a été vite interrompu. Dans le peuple d'Israël, Caïn, il y a eu quand même beaucoup de problèmes. Mais un jour, nous savons que dans le sanctuaire dont les bases sont établies, non pas par les mains d'hommes, mais par les mains même de Dieu, éternellement, nous pourrons chanter Dieu, mon salut, ma force et mon cantique.